Chapitre 33. Une fois le juge suprême pétrifié, son sort se dissipa dans toute la ville. Redevenue elle-même, Nietzsche expira longuement, presque étonnée de ne pas exhaler un nuage de poussière. Ses cheveux blonds de nouveau souples, elle baissa les yeux et vit onduler le tissu de sa robe, puis elle leva les bras et étudia ses mains. Par la seule force de sa volonté, elle avait réussi à neutraliser le sort de pétrification. Mais c'était Nathan qui avait pris à son propre piège le sorcier fou. L'air stupéfié, le vieil homme pliait les bras et sautait sur place pour rétablir sa circulation. À côté de Nietzsche, la statue de Bannon reprenait lentement des couleurs humaines. Les cheveux roux réapparurent, la peau recouvra son teint normal et les taches de rousseur revinrent par dizaines. Au lieu de se réjouir d'être de nouveau vivant, Bannon se laissa tomber à genoux et gémit de détresse. Les épaules voûtées, il inclina la tête et éclata en sanglots. En silence, Nathan lui tapota l'épaule pour le consoler. Approchant des deux hommes, Nietzsche parla d'un ton inhabituellement doux. « Nous ne risquons plus rien. Quoi que tu aies revécu, c'est du passé. Pas ce que tu es, mais ce que tu étais. Tu n'as aucune raison de te sentir coupable. » Toujours les remords au sujet de Yann, supposa la magicienne. Mais pourquoi Bannon avait-il prononcé le mot « chaton » avant de se pétrifier? Partout autour des trois voyageurs, des cris de surprise retentissaient. Tournant la tête, Nietzsche vit que toutes les statues s'éveillaient, les malheureux piégés par le juge suprême revenaient à la vie. Dans un premier temps, ces gens restaient prisonniers du cauchemar où ce fou les avait enfermés. Du coup, des sanglots et des gémissements succédèrent aux cris de surprise. Après une si longue épreuve, les citadins ne comprenaient pas vraiment qu'ils étaient de nouveau libres. Les yeux gonflés et les joues sillonnées de larmes, Bannon se releva enfin.
« Nous sommes en sécurité, »
dit-il, comme s'il voulait réconforter les citadins.
« Tout ira bien !»
Une partie des habitants de Lockridge l'entendirent, les autres étant trop hébétés pour comprendre. Après des années de séparation, des couples s'étreignirent, tandis que des enfants couraient vers eux en quête de tendresse et de réconfort. Au bout d'un moment, les miraculés s'avisèrent qu'il y avait trois nouveaux venus parmi eux. Le maire de la ville, un certain Louis Barr, se présenta aux visiteurs.
« Je parle au nom de tous les habitants. C'est vous qui nous avez sauvés ?»«
C'est nous, oui, » répondit Nathan. « Sinon, nous sommes des voyageurs qui ne refuseraient pas un bon repas et quelques indications géographiques. »
Les citadins ayant enfin remarqué la statue du juge suprême, certains grognaient tout bas. Nietzsche désigna la grotesque sculpture.
« Une société a besoin de lois. Mais la justice n'existe pas quand un homme dépourvu de conscience la rend sans compassion ni clémence.
Si nous nous sentons tous coupables, » intervint Bannon, « chaque jour est notre châtiment. Comment pourrais-je oublier ?»«
Aucun de nous n'oubliera, »
coupa le maire.
« Et aucun de nous ne vous oubliera, étranger. Nos sauveteurs !»
D'autres citadins approchèrent. Un aubergiste au tablier taché par un plat servi des années plus tôt. Des fermiers, les mains encore pleines de terre. Partout, des gens s'affligeaient de voir leur ville dans un tel état de déshérence. Les tréteaux cassés, les immondices dans les rues, les volets brisés de l'auberge, le toit écroulé de l'écurie, la paille pourrie sur le sol.
« Combien de temps ça a duré ?»
demanda une femme brune aux chignons dévastés.
« Mon dernier souvenir remonte au printemps et on dirait que c'est l'été. »«
Oui, mais de quelle année ?»
demanda le forgeron. Il désigna la porte de l'écurie arrachée de ses gonds.
« Vous voyez la rouille ?»
Nathan révéla la date aux citadins, selon les critères de Dara. Mais dans cette contrée perdue de l'ancien monde, on suivait encore le calendrier d'un très ancien empereur. Incapable de se situer dans le temps, ces gens ne se souvenaient pas de Jagang et de l'ordre impérial. Même s'il était aussi désorienté que les autres, le maire convoqua toute la ville sur l'esplanade, où Nietzsche et Nathan dirent ce qu'ils savaient sur cette affaire. Toutes les victimes se souvenaient de leur désastreuse expérience avec le juge suprême. En majorité, elles se rappelaient l'époque où, encore magistrat itinérant, il venait juger les délinquants et leur infligeait des punitions raisonnables, avant que l'amulette et son don le transforment en monstre. Tenant ses deux enfants par la main, un garçon et une fille, une femme vint se camper devant la statue du sorcier fou. Les yeux pleins de haine, elle se tut un long moment, puis cracha sur le visage de marbre. D'autres citadins vinrent l'imiter, une très longue procession. Quand l'aubergiste proposa qu'on utilise la masse du forgeron pour détruire la statue, Nietzsche donna de bon cœur son aval.
« Ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. »
Avec une rage compréhensible, les citadins réduisirent en miettes le juge suprême. Devant le tas de débris blancs, ils ne parurent pourtant pas satisfaits.
« Nous devons rentrer chez nous, » dit le maire, « et reconstruire nos vies. Nettoyez vos maisons et restaurez vos jardins, puis trouvez les autres victimes de cet homme et expliquez-leur ce qui s'est passé. »«
La magie a changé, » enchaîna Nathan, « et le monde aussi, même si les étoiles ne sont plus comme avant. Cette nuit, vous découvrirez des constellations différentes. Même nous, nous ignorons jusqu'à quel point le monde s'est transformé. »
Dans l'Empire d'Aran, ajouta Nietzsche, le seigneur Ral a vaincu les empereurs qui opprimaient l'ancien et le nouveau monde. Nous sommes ici pour découvrir des territoires et pour vous annoncer que le monde peut être un endroit où règne la liberté et la paix. À Lockridge, nous vous avons libéré, nous avons vaincu le juge suprême.
Sondant le tas de gravats, Nietzsche repéra un éclat de marbre rond qui aurait pu être une oreille.
Cet homme est exactement le genre de monstre que le seigneur Ral combat. Et nous, ses émissaires, avons fait ce qu'il fallait pour le neutraliser.
Alors que les citadins assimilaient ces nouvelles, Nathan, troublé, se tourna vers Nietzsche.
J'ai étudié la magie pendant des siècles, et je me souviens de récits sur les antiques sorciers d'Ildakar, capables de transformer en pierre des êtres humains. Certains s'étaient même surnommés les sculpteurs. Ils ne transformaient pas que des criminels, mais aussi des combattants vaincus dans leurs arènes. Les statues devenaient des ornements.
Nathan se pinça pensivement le menton et continua.
Mais le sort ici ne se contentait pas de transformer la chair en marbre. C'était davantage un sortilège anti-vieillissement qui aurait pu conserver ces gens vivants pendant des milliers d'années. Il faudra que je réfléchisse à cette question.
Au cours de cette mémorable journée, Nietzsche et ses compagnons apprirent qu'il y avait dans les montagnes bien d'autres villes et villages reliés par un réseau de routes, et parmi ces agglomérations, un grand nombre avaient recouru au service du même magistrat itinérant. Depuis la mort du sorcier fou, ces autres victimes devaient être revenues à la vie. En somme, toute une région de l'ancien monde s'était réveillée.
« Tu sauves le monde, magicienne, » dit Nathan. « Exactement comme Rouge le prédisait. »«
Dans cette affaire, tu en as fait au moins autant que moi. »
Le vieil homme haussa les épaules.
« Une bonne action reste une bonne action, qu'importe à qui en revient le mérite. J'ai quitté le palais du peuple pour aller aider les gens et je suis heureux de le faire pour de bon. »
Nietzsche ne vit rien à objecter à cette profession de foi. Alors que les citadins se dispersaient pour retourner chez eux, Nietzsche, Nathan et Bannon dînèrent avec l'aubergiste et son épouse d'une bouillie de flocons d'avoine préparée avec un sac de grains miraculeusement conservé. Très perturbé, Bannon ne réussissait visiblement pas à retrouver son insouciance et sa joie de vivre. Soupolet, morose et agressif, le jeune homme finit par énerver Nietzsche, qui l'interrogea dès qu'ils furent seuls dans une petite pièce tranquille de l'auberge.
« Je sens bien que tu ne te remets pas. Que voyais-tu quand tu étais pétrifié ? Tu sais, le sort est neutralisé. Je vais bien, »
éluda le jeune homme. La magicienne ne s'en laissa pas compter.
« Ta culpabilité ne concernait pas seulement Yann et son enlèvement, pas vrai ?
Non, il y a encore pire. »
Silencieuse, Nietzsche attendit que son jeune ami craque.
« Les chatons !»
s'écria Bannon.
Un homme de mon île. Ce type a noyé des chatons dans un sac.
Bannon baissa les yeux et continua.
J'ai tenté de l'en empêcher. Mais il a jeté le sac dans un cours d'eau et les chatons se sont noyés. Pendant que j'essayais en vain de les sauver, ils miaulaient de désespoir.
Nietzsche repensa à toutes les épreuves qu'elle avait subies, au sang qu'elle avait versé, aux vies détruites et aux remords qu'elle avait fini par surmonter.
C'est ça ton pire crime ?
De la rage dans ses yeux noisettes, Bannon se tourna vers la magicienne.
« Tu te prends pour qui ? Le juge suprême ? Ce n'est pas à toi de mesurer ma culpabilité. Tu ignores à quel point ça m'a brisé le cœur. »
Bannon se dirigea vers la sortie, décidé à se trouver une chambre où passer la nuit.
« Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus jamais repenser à ça. »
Et il partit en claquant la porte. Troublé, Nietzsche se demanda si le jeune homme était sincère. Dans son regard, quelque chose laissait penser que non. Il refusait de répondre et elle décida de ne pas insister, mais un jour ou l'autre, elle saurait. À Lock Ridge, tout le monde était passé par une terrible épreuve. Fatigué, Nietzsche partit aussi en quête d'une chambre. Avec un peu de chance, la ville entière dormirait paisiblement et sans cauchemars.